Alors jusqu'à présent, on avait croisé les pharisiens à plusieurs reprises. On a dit que ça y est, ils étaient sortis de l'évangile de Luc, on ne les reverra pas. Mais on découvre une autre école ou grand courant du judaïsme, ce sont les sadducéens. Donc il y a trois grands courants dans le judaïsme du temps de Jésus. Donc les pharisiens, les sadducéens, et le troisième courant, on ne le voit pas dans les évangiles, ce sont les esséniens. Donc les sadducéens d'abord. C'est un courant qui a ceci de particulier, qu'il est lié à l'aristocratie israélite. Donc en fait, ce n'est pas avant tout une école, j'ai envie de dire, de pensée juive, mais c'est lié à une caste sociale. Et les sadducéens occupent en général les fonctions politiques et religieuses importantes. Mais, et c'est quand même là qu'il y a quand même le côté école. On avait dit que les pharisiens attendaient le Messie, ils croyaient à l'immortalité de l'âme et à une forme de vie après la mort. Les sadducéens ne croient à rien de tout ça. Pas de résurrection, pas d'existence des anges ou des esprits, et pas d'attente messianique. Et même dans les Écritures, ils ne reconnaissent que le Pentateuque, donc la Torah. Vous vous rappelez, on avait dit le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, eux, ils ne reconnaissent que les cinq premiers livres, que les livres de la loi. Et de fait, on verra que dans la dispute qu'ils ont avec Jésus, ils utilisent uniquement Moïse comme argument. Donc les Sadducéens, on a déjà défini les pharisiens, donc les Esséniens, comme on ne les verra pas, autant les définir maintenant. Donc les Esséniens, eux, ils ont ceci de particulier que même si ils partagent les Écritures, l'ensemble des Écritures avec les autres, même si ils croient comme les pharisiens qu'un Messie va venir, ils croient qu'il y a une forme de vie après la mort, ils croient à la liberté, à l'immortalité de l'âme, ils ont une différence avec les pharisiens, qui est quand même celle de l'attente messianique, parce que si les pharisiens ont plutôt tendance à croire que le Messie sera un Messie, comment dire, guerrier, qui viendra libérer par la force le peuple d'Israël. En revanche, les Esséniens, eux, ils sont plutôt du côté du livre de Daniel. Donc ils attendent ce comme fils d'homme qui doit descendre du ciel pour apporter et établir un règne de paix. Donc eux, ils attendent plutôt un Messie qui n'est ni homme, ni ange, ni Dieu, qui est suprahumain, quoi. Donc c'est d'ailleurs assez intéressant de se dire que malgré l'attente messianique de ces deux courants-là, Jésus en fait n'entrait dans aucune des deux écoles. Parce que il se présente lui-même comme fils de l'homme, mais il n'était pas suprahumain. Il était homme et Dieu. Et il n'était pas un messie guerrier comme pouvaient l'attendre les pharisiens. Et les Esséniens, autre chose très importante, donc ils n'allaient pas dans le temple de Jérusalem parce qu'ils considéraient que le temple de Jérusalem était souillé, parce qu'à cette époque-là, ce sont les Asmonéens qui sont la dynastie sacerdotale. Or, les Asmonéens ne descendent pas de Sadoc, et Sadoc, c'est celui qui a été établi par le roi David pour que sa descendance, sa lignée, soit au service du temple en tant que grand prêtre. Donc, eux, ils considèrent que c'est une abomination. Le temple est souillé, et donc ils ne veulent plus mettre les pieds dans le temple. Si bien qu'ils se réunissent à un autre endroit que vous connaissez, on en a parlé, c'est Qumran. Alors après, de là à dire comment ils vivaient à Qumran, c'est une grande question. Je crois que je vous avais dit, je l'ai visité avec trois spécialistes différents qui m'ont raconté trois choses complètement différentes. Donc, on ne sait pas trop quoi.
Les Assyriens descendent de...
Alors c'est un courant religieux qui va s'établir au moment justement où ils considèrent que le temple est souillé, mais il n'y a pas de c'est pas une dynastie quoi. On sait juste que si enfin ils avaient des règles très strictes hein, et parmi les règles strictes il y avait il n'y a que les hommes qui pouvaient entrer dans la communauté. Les femmes n'avaient pas le droit de... Enfin quand je dis dans la communauté je parle au sens topographique du Voilà, c'est dans le lieu même. Les femmes ne pouvaient pas entrer. Bon, alors regardons justement ce qu'il raconte ces Sadducéens avec la femme aux sept maris. Donc Luc précise bien, au cas où on l'aurait raté, qu'ils soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Et c'est bien qu'en fait, on ne sait pas trop dire si les Sadducéens posent la question à Jésus tout à fait sérieusement, en disant bah, on a face à nous un maître qui est quand même reconnu, les foules sont suspendues à ses lèvres, on l'a entendu, on a entendu des témoignages positifs à son égard, donc peut-être, comme certains sont vivants, en disant maître, ils lui ont posé une question tout à fait sérieusement, peut-être qu'ils viennent tout à fait sérieusement poser la question à Jésus sur bah, l'un des points quand même clés de la foi juive, enfin, la question de l'eschatologie. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ou alors, c'est une autre possibilité, ils ne le prennent pas du tout au sérieux, et donc ils veulent démontrer dans un raisonnement par l'absurde que la résurrection après la mort, c'est pas possible. Et donc, effectivement, il y a un côté un peu burlesque à la situation qu'ils présentent, qui pourrait laisser entendre ça. Mais, comme Luc ne précise pas, je ne crois pas qu'on puisse se faire un avis clair sur la question. Dans leur raisonnement, les Sadducéens vont s'appuyer sur une règle qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome, donc l'un des livres de la Torah, au chapitre 25, verset 5, c'est la règle du Lévira. Cette règle stipule que si un homme meurt sans descendance, alors son frère va épouser la veuve pour procurer une descendance et bah, à son frère et à sa nouvelle femme. Mais en réalité, quand on se renseignant un peu sur avec les historiens, ce qu'ils disent de cette période, au temps de Jésus, la loi du Lévira semble être déjà tombée en désuétude. Donc, ça peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que les Sadducéens utilisent cette loi si, de fait, bien sûr, elle est inscrite dans les textes, mais elle n'est plus utilisée. Enfin, bon, après, qu'elle soit tombée en désuétude ou non, la question de fond, elle demeure. Comment est-ce que les choses vont se passer au jour de la résurrection? Et on voit dans le raisonnement des Sadducéens qu'ils envisagent la résurrection, alors ils n'y croient pas, mais pour le raisonnement ils vont quand même l'envisager, et ils l'envisagent comme un copier-coller de la vie terrestre. Et donc, à partir du moment où ils sont dans ce raisonnement, le mariage de la femme avec sept maris, et il n'y a aucun des maris qui lui donne un enfant, ça semble effectivement insoluble. Là, la question de qui sera-t-elle la femme semble très, très pertinente. Donc, est-ce que c'est la preuve, ce raisonnement, de la non-existence de la résurrection? Bien sûr, Jésus explique que non. Parce que la résurrection n'est pas envisagée comme un copier-coller de la vie terrestre, mais comme un monde nouveau. C'est le verset 34-36. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, donc là c'est le monde actuel, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Donc finalement, le débat est clos. La question n'a même pas à être posée puisque ça n'aura pas lieu d'être. Ils ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Et la mention de « ils ne peuvent plus mourir » vient du fait que le mariage est effectivement un engagement jusqu'à ce que la mort vienne rompre cette alliance-là. Donc, effectivement, puisqu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de raison d'avoir ce type de contrat. Donc, le mariage mène l'homme vers sa fin surnaturelle. Le mariage est là pour amener l'homme vers la vie dans le monde à venir. Mais il n'est pas la règle du monde à venir, puisque être semblable aux anges, eh bien, signifie ici être complètement consacré à Dieu. Et on voit la technique de Jésus. Jésus il va achever sa réponse en citant les textes qui font foi chez les Sadducéens. Il va citer Moïse lui-même sur la résurrection. C'est au verset 37. Moïse lui-même le fait que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et là, c'est le silence. Il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Il y en a même un qui lui dit, au verset 39, « Maître, tu as bien parlé. » Et donc Jésus, face au silence respectueux de tout son auditoire, eh bien, il va décider de prendre la parole pour poursuivre la réflexion qu'il a engagée. Après la résurrection, il va aborder un autre sujet eschatologique qui est important, celui de la messianité. Et on l'a dit, les Sadducéens n'attendent pas particulièrement de Messie. Mais, comme ils ne croyaient pas non plus à la résurrection, il va y aller. Comment peut-on dire que le Christ est fils de David? David lui-même dit en effet, dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? C'est les versets 43-45. Alors pour que la question que Jésus pose fasse sens, parce que sinon ça semble un peu obscur, il faut bien comprendre qu'en Israël, un père est reconnu comme étant supérieur à sa descendance. Et donc le Père est le Seigneur de sa descendance. Donc, à partir de ce moment-là, le Messie est nécessairement supérieur à tout autre homme. Donc, si le Messie est supérieur en dignité au roi David, est-ce qu'il pourrait appeler son aïeul David Seigneur? Là, il y a un conflit, il y a un problème. Et donc Jésus laisse entendre que la figure du Messie ne doit pas être réduite uniquement à la descendance davidique. Donc il essaye en fait d'élargir la compréhension messianique de son auditoire. Il n'est pas dit de fait que les Sadducéens refusaient la messianité parce que ça devait être un descendant de David. C'est pas dit. Mais comme Jésus a utilisé la conception erronée des Sadducéens pour leur faire mieux comprendre ce qu'est la vie éternelle, on peut penser que si Jésus insiste sur ce point, c'est aussi pour faire mieux comprendre quel est le Messie. Alors pourquoi est-ce que Jésus insiste sur le fait que le Messie ne doit pas être réduit à descendance davidique? D'abord, parce que sinon, on risque d'envisager le Messie comme les rois d'Israël. Donc ça, c'est un peu le problème des pharisiens, on l'a dit. Et donc le truc, c'est que dans ce cas-là, le roi, il vient pour libérer son peuple, et il le libère, comme l'ont fait les rois d'Israël, en faisant la guerre aux autres nations, donc en l'occurrence, à l'Empire romain. Et puis, il y a une deuxième raison. Et ça, nous, on la connaît. Parce que Jésus n'est pas non plus biologiquement le fils de Joseph. Or, c'est Joseph qui est le descendant de David. Il est reconnu comme tel, de fait. Mais, biologiquement, non. Donc, l'idée qui est derrière, c'est laquelle? C'est de dire que si Dieu peut utiliser un moyen tout à fait inattendu pour que Jésus soit de la filiation davidique, l'adoption par Joseph, qui l'élève comme un père, alors Dieu peut aussi tout à fait utiliser un moyen inattendu pour obtenir la victoire. Le Messie ne sera pas un guerrier qui va vaincre par l'épée, le Messie va mourir sur une croix, et cette croix sera sa victoire parce qu'il va ressusciter.